Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, on va prendre l'avion, un été inédit se prépare, c'est la reprise et même la surchauffe en matière de fréquentation dans les aéroports. Alors comment s'y préparer? Un secteur qui recrute massivement et pour en parler, la filiale low cost d'Air France Transavia, sa PDG Nathalie Stubler est l'invitée de La France bouge. À la une, l'avion de demain volera-t-il à l'hydrogène? On a trouvé une start-up toulousaine, c'est Beyond Aero qui prépare un jet privé à l'hydrogène et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, direction Meaux, en Seine-et-Marne, dans le plus vieil aéroclub de France. Il date du 19e siècle. Rendez-vous à 13h30 pour le récit de Quentin Paillet. Le pitch est Trophée Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on reçoit la French Latitude. C'est un site de réservation en ligne dédié aux belles adresses françaises.
Et le site est très joli. On le découvre à 13h45. Et puis en fin d'émission, demain au travail, une entreprise a choisi d'emmener tous ses salariés à des séjours de télétravail. Et oui, c'est bien réel. Il paraît que ça fait du bien pour la cohésion des équipes. Ils nous diront tout vers 13h50. C'est ça, La France bouge. Bienvenue. Vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France bouge. Aujourd'hui, on va prendre l'avion après avoir été lourdement impacté par les deux années de crise sanitaire. Rien qu'en 2020, l'activité dans le secteur aérien plongeait de 75%. Aujourd'hui, c'est bel et bien la reprise. Comment s'organisent les compagnies aériennes? Quelles sont les solutions? On va en parler jusqu'à 14h avec vous, Nathalie Stubler. Bonjour.
Bonjour, Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes la PDG de Transavia. Transavia a 15 ans. C'était le Paris-Porto le 12 mai, il y a 15 ans. Depuis, cette compagnie low-cost filiale d'Air France s'est développée en France. Vous avez renforcé votre offre sur l'ensemble du réseau. Pour l'été 2022, vous allez ouvrir 6 nouvelles lignes, c'est ça?
Un peu plus.
Maintenant, même plus,
oui, tout à fait.
Donc plus de six lignes. Vous allez proposer des tas de destinations, plus d'une centaine de destinations au départ, notamment de Paris-Orly. 2000 salariés. Vous avez des départs à Paris-Orly, mais aussi Nantes, Lyon et Montpellier. Comment ça va en ce moment, Nathalie Stubler?
Eh bien, effectivement, vous l'avez dit, c'est la reprise et puis c'est même la croissance par rapport à 2019.
C'est-à-dire
quand on va sur l'ensemble de l'année afficher un taux de croissance de plus 50% par rapport à l'année 2019.
Donc vous avez doublé. Vous avez doublé quoi? Vous avez doublé vos...
On a fortement développé notre réseau par un nombre d'avions, grâce à un nombre d'avions supplémentaires. On avait 38 appareils en 2019. Et on en aura au cœur de l'été 61 qui voleront.
Donc vous ne pouvez pas vraiment comparer par rapport à 2019 dans la mesure où vous aviez deux fois moins d'avions.
On avait surtout un réseau très différent, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer la dynamique. Vous l'avez signalé, 2020, pour nous, Transavia France, c'était moins 60% par rapport à 2019. 2021, encore en baisse, moins 25% par rapport à 2019, même si on a eu un été qui était un peu en ligne. Et là, c'est la reprise, je dirais, du schéma stratégique que le groupe Air France a construit aussi avec nous pour reprendre de la croissance, d'où l'augmentation de la flotte, l'augmentation du nombre de salariés. Et qu'est-ce qu'on va développer ?
L'augmentation du nombre de salariés, je vous arrête. Il y a un vrai souci au niveau du personnel. Tout à l'heure, là, je disais que EasyJet va retirer des sièges de ses avions parce qu'il y a trop de pénurie de personnel. Ils ont annoncé aujourd'hui retirer 6 sièges de ces A319 au Royaume-Uni pour limiter ses besoins en personnel. Est-ce que vous pouvez en arriver là aussi chez Transavia?
Alors, on est sur notre plan de recrutement. On recrute de façon importante des hôtesses et stewards. Mais le plan de recrutement se déroule comme prévu pour l'été.
Vous recrutez combien d'hôtesses, combien de stewards?
Alors, au total, si on se compare en moyenne entre l'année 21 et l'année 22, on aura 500 collaborateurs supplémentaires.
Donc 500 collaborateurs supplémentaires, personnel navigant
et personnel au sol. Personnel navigant représente 85% de notre effectif. Donc on est sur notre plan de marche.
Donc recrutement en cours, pilote, vous en avez assez?
Oui, on est toujours sur notre plan de marche en matière de formation. Les copilotes sont recrutés par Air France puis détachés chez Transavia et les commandants de bord viennent d'Air France. Donc là-dessus, c'est plutôt le plan de formation qui doit avoir une attention particulière pour être prêt pour l'ensemble des appareils, les 61 qui voleront cet été.
Donc,
on est sur notre plan de marche. Après, c'est effectivement, je pense, une situation assez tendue dans les aéroports. Augustin de Romanès s'est exprimé. Je crois que le groupe Aéroports de Paris recrute...
Oui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Ils recrutent 4 000 personnes chez ADP.
ADP et ses prestataires, sûr. Donc ça, c'est effectivement le signe de la reprise. Donc
c'est positif, elle est positive, mais c'est quand même compliqué. Mais alors vous ne pourriez pas aller, comme est en train de le faire EasyJet, supprimer carrément des sièges à l'intérieur des avions?
Ce n'est pas prévu dans notre plan de marche, puisque pour l'instant, je vous dis, là, en l'occurrence, pour la compagnie que vous citez, c'est pour un sujet d'hôtesse et steward. Et nous, notre plan de recrutement et de formation est sur le plan de marche tel que prévu.
Alors, donc, le recrutement est en cours, ça va bien, vous avez affiché une belle croissance, vous avez quasiment doublé vos avions. Comment se sont passées les vacances de Pâques? Et puis là, on s'approche du week-end de la Pentecôte, et puis ensuite l'été. Déjà le premier bilan des vacances de Pâques.
Alors, le premier bilan, effectivement, beaucoup de dynamisme dans les ventes, et on continue à le voir sur la période de l'été, puisque aujourd'hui, si on se compare à la même période en 2019, depuis plusieurs semaines, nos ventes font x2. Alors, il y a un effet rattrapage, hein, parce qu'au premier trimestre, l'activité était assez morne, puisqu'on était encore sous l'impact du variant Omicron, puis quelques fermetures de frontières. Donc, il y a un fort effet rattrapage.
Là, on redevient à une période, entre guillemets, normale, hein, comme si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. Comme si, voilà, il y a certains pays qui, maintenant, vont à partir de la mi-mai, ne vont même plus demander de tests PCR pour pouvoir passer les frontières. Donc, on peut dire qu'on est revenu à une période quasi normale, mais avec plus d'envie.
On est encore, je dirais, en phase de reprise, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des tensions précédemment et que là, il y a une sorte d'accélération. En tout cas, des gens qui n'ont pas pu voyager et qui ont très envie d'aller retrouver des familles, des amis. Donc ça, c'est important. Donc premier bilan, c'est qu'on voit que les ventes se positionnent très bien. On voit que les pays qui sont porteurs, alors... Il y a des pays nouveaux pour nous, Transavia, par rapport à l'année 2019. C'est d'abord la France. On n'avait pas de route intérieure française que nous avons développée. Et puis aussi...
Quelle liaison vous faites maintenant?
Alors, on en fait plusieurs dizaines, je dirais, en France. Au départ de Paris-Orly, mais aussi au départ des provinces françaises, on a aussi beaucoup développé des destinations, par exemple, vers la Corse. Au total, on va toucher en France 18 aéroports, 18 villes, dont nos 4 bases principales qui sont Paris-Orly, Lyon, Nantes et Montpellier, mais au total 18 aéroports, 18 villes en France desservies par Transavia.
Donc un bon bilan des vacances de Pâques. On est resté en France dans ce que on a
non,
pris l'avion.
Non, ça faisait partie des développements par rapport à qui n'existaient pas pour Transavia. Mais sinon, c'est toujours, je dirais, les destinations assez phares que nous connaissons, avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie, qui sont des destinations, je dirais, connues chez Transavia, mais que nous avons continué à développer avec des fréquences supplémentaires et des nouvelles destinations. Par exemple, je vais citer l'île de Skiathos en Grèce ou les Açores pour le Portugal. Donc voilà, nous avons aussi développé sur ces pays des destinations nouvelles
qui fonctionnent bien
qui
aussi.
Ont déjà suscité beaucoup d'intérêt
on
de
imagine
la part de nos
pourquoi.
Clients.
Vous restez avec nous, Nathalie Stobler, vous êtes la PDG de Transavia. Hein. Vous nous le dites, il y a une belle reprise. Hein. On est encore dans la reprise, vous avez doublé vos ventes, vous avez doublé votre flotte d'avions et on va continuer à en parler avec vous jusqu'à 14h.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises. Et nous sommes ravis d'être avec notre grande patronne du jour, c'est Nathalie Stobler, la PDG de Transavia, la filiale low cost d'Air France, qui a déjà 15 ans. On n'imagine pas. Moi, je me souviens quand c'est arrivé en France, Transavia, on se disait, ouais, chouette, on va pouvoir voyager moins cher. Vous nous l'avez dit, c'est la reprise. On a pris l'avion pendant les vacances de Pâques. Tiens, justement, comment s'annoncent là les vacances des Est-ce qu'on réserve toujours à la dernière minute ou au contraire, vous observez déjà des réservations?
Enfin, je dirais, ça doit être une marque de confiance, les clients réservent plus à l'avance. Effectivement, on était sur un rythme extrêmement dernière minute.
Jusqu'à 3 jours avant,
voilà.
Parfois.
Alors, ce dynamisme sur la dernière minute continue d'exister, mais on retrouve enfin un profil un peu plus normal, c'est en tout cas d'avant la crise où les gens vont réserver un peu à l'avance leurs vacances d'été.
Ils ont envie de se projeter en fait.
Ils ont envie de se projeter, ils ont envie de réserver leurs vacances.
Alors ils ont réservé où? Enfin quel vol?
Ah, alors ils ont réservé, je dirais, le pays qui va sortir en premier sur l'été, juillet-août, c'est encore la Grèce, mais suivi d'assez proche avec l'Espagne, le Maroc, le Portugal et la Tunisie aussi. Le Maroc reprend aussi très fort, hein. Il y avait quelques contraintes sur les ouvertures de frontières. Et là, il y a un joli dynamisme aussi sur ce pays que nous ressentons.
Donc là aussi, ça se présente très bien. Vous, en ce qui concerne vos avions, petit à petit, je sais que l'aspect environnemental, réduire l'impact environnemental, c'est l'une de vos priorités chez Transavia. Vous êtes en pleine phase aussi de développement, de commandes d'avions, justement, qui font attention à tout cela, qui permettent de réduire leur consommation de carburant.
Effectivement, c'est un engagement très fort du groupe auquel nous appartenons, le groupe Air France. Et dans ce contexte, Transavia va accueillir des avions de dernière génération. Ce sont des Airbus 320 Neo.
Les Neo, oui.
À partir de l'année prochaine, déjà. Donc oui, ces avions de dernière génération vont nous permettre déjà d'économiser et donc d'émettre moins de CO2, environ 15%. Peut-être même un peu plus. Donc voilà, ça c'est effectivement clé et c'est le premier levier à utiliser. Sans attendre ce levier, on travaille déjà bien sûr avec nos pilotes et des start-up qui nous accompagnent.
Oui, je crois que vous travaillez, il me semble bien, avec Open Airlines.
Tout à fait.
Qui permet d'envoyer pendant le vol des alertes aux pilotes pour améliorer la consommation du carburant. Alors, en plein vol,
alors
en temps réel.
Surtout avec Open Airlines, on a monté avec eux un outil de monitoring. Alors depuis, de nombreuses compagnies aériennes utilisent leurs outils. Puis il y a une autre start-up aussi qui s'appelait SafetyLine, qui a été aussi racheté par un grand groupe, Cita. Et SafetyLine, elle, va nous permettre d'optimiser vraiment les profils de montée, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important.
C'est-à-dire au moment du décollage, c'est là où on consomme le plus.
Voilà, le profil de montée, c'est vraiment important pour nous. Donc, sans attendre ces avions de dernière génération, on s'engage. On fait partie des engagements du groupe Air France, qui s'est engagé très récemment auprès de l'initiative Science Based Target Initiatives. C'est très important, moins 30% d'émissions de CO2 par passager kilomètre entre 2019 et 2030.
On va continuer à parler de cet impact environnemental si important pour nos avions. Et si voler l'hydrogène n'était plus de la science-fiction, Airbus l'annonce d'ici à 2035. Il y a aujourd'hui des solutions avec des avions légers. C'est ce que vous avez inventé, Eloa Guillotin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice et la PDG de Beyond Aero. Vous développez une nouvelle génération, vous, de jets privés qui volent à l'hydrogène. C'est ça, en fait, votre ambition, c'est de pouvoir utiliser un avion léger qui vole à l'hydrogène.
Exactement. Alors, on développe un avion d'affaires qui sera adapté aux contraintes de l'hydrogène. Alors, c'est bien un avion électrique, c'est juste qu'il est optimisé autour de la chaîne propulsive hydrogène. Donc réservoir, puis la combustible, etc. Pour pouvoir aller chercher un marché suffisamment lointain. Donc une autonomie, c'est ce qu'apporte l'hydrogène. Donc on est en train d'essayer de développer cet avion pour pouvoir aller chercher un marché européen. Donc les liaisons Paris, Londres, Genève.
Donc ça voudrait dire plus de 1000 km de distance. Donc vous pourriez couvrir tout l'Europe.
Une bonne partie de l'Europe.
Ouais. Mais l'hydrogène, donc ça signifie quoi? Ce jet privé, il sera silencieux, durable?
Et surtout zéro émission directe
zéro
de l'avion
direct.
Okay. Absolument.
Mais alors, donc une autonomie de plus de 1000 km, mais comment ça va fonctionner très exactement? On va le stocker comment, cet hydrogène, pendant qu'on va voler?
Donc nous, comme je disais, c'est un avion électrique, c'est-à-dire que le moteur est électrique. Alors, ensuite, le moteur doit être alimenté par une chaîne propulsive électrique, donc on a de l'hydrogène stocké dans des réservoirs qui alimentent une pile à combustible et eux alimentent le moteur électrique. Mais alors, comme je disais tout à l'heure, la contrainte, c'est vraiment de redesigner l'ensemble de l'architecture de l'avion.
Parce que ce sera un avion différent en termes d'architecture, justement.
Pour le commun des mortels, non. C'est quelque chose qui va ressembler à un avion conventionnel. Par contre, dans l'architecture même, le positionnement des réservoirs et différentes contraintes qui sont liées à l'hydrogène, il est nécessaire d'optimiser l'architecture de l'avion avec l'hydrogène. Et c'est là ce que nous, on est en train de développer.
Vous développez ça, il y a beaucoup de personnes qui vous font confiance parce que vous avez fait une levée de fonds.
On a fait deux récemment.
Deux levées de fonds. Ouais. Vous avez réuni combien jusqu'à présent?
Je préfère pas dévoiler longtemps si ça ne vous dérange pas.
Et vous êtes soutenue par la région Occitanie puisque
Absolument.
Vous venez de Toulouse. Donc il y a pas mal de personnes, de grands groupes et des fonds publics qui vous font confiance. Vous avez déjà des clients potentiels?
Oui, on a déjà signé des lettres d'intérêt de clients. Pareil, pour l'instant, on fait les premières étapes petit à petit parce qu'on est en train de développer notre premier démonstrateur et c'est là-dessus où la région Occitanie nous soutient, qui est dans la catégorie des ULM. Donc, c'est un petit avion deux places qui, pour le coup, pour une première étape, c'est un rétrofit d'un avion existant. Ensuite, on développera l'avion plus long terme. Et c'est dans ce contexte où on est basé à Toulouse. La région Occitanie nous soutient et également l'ensemble de la BPI et le plan France 2030 hein, qui est vraiment dans la lignée de l'entreprise.
Vous êtes trois fondateurs, hein, c'est ça. Vous êtes totalement passionné d'aviation. Donc, ce qui nous plaît aussi à la France Bouge, c'est un peu revenir sur cette histoire d'entrepreneuriat. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Et ce n'est pas votre première entreprise autour de l'aviation?
Non, absolument. Alors, on est trois cofondateurs, donc ingénieurs aéronautiques passionnés depuis bien des années. On avait déjà créé des entreprises avec Hugo et Valentin les années précédentes. Et puis, finalement, au fur et à mesure de réflexion, on a eu un peu ce moment où on a pris conscience que l'aviation ne pourrait que être électrique dans un futur. La question est juste quand. Le but de l'entreprise est justement de faire cette mutation, que cette mutation arrive le plus vite possible, en commençant par les petits avions.
Les petits avions, mais bon, il faut obtenir quelques petites autorisations quand même.
Absolument, c'est tout le challenge de l'hydrogène, la certification.
Et les autorisations. Nathalie Stoebler, vous êtes notre grande patronne du jour, PDG de Transavia. Quel regard portez-vous sur l'avion et hydrogène, bientôt des avions Transavia hydrogène?
En tout cas, on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe effectivement dans cette communauté start-up et grands groupes, parce que Airbus aussi participe à cette évolution et à cet engagement.
Ils ont promis à 2035.
Voilà, je pense que c'est extrêmement important de voir ce qui s'y passe parce qu'il faut décarboner l'aviation. C'est notre challenge. Alors aujourd'hui, cet avion, il n'existe pas pour transporter ce qu'on transporte aujourd'hui, c'est à peu près 189 sièges.
Oui, ce n'est pas un avion commercial. Dans nos avions. Ce serait 6 places, le jet, hein, oui, maximum. Ouais.
Mais, c'est le début, et c'est extrêmement intéressant pour les étapes ultérieures. Je dirais, sans attendre l'hydrogène, c'est pour ça qu'on est en marche, pour déjà réduire notre impact environnemental, réduire nos émissions, mais c'est tout à fait prometteur.
C'est tout à fait prometteur. Vous allez donc suivre cela attentivement. Merci Eloi Guillotin. Merci. Vous êtes la cofondatrice et la PDG de Beyond Aero. Merci d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Nathalie Stoebler, vous restez avec nous. On va continuer une belle France Bouge autour de l'aviation.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Et aujourd'hui, on prend l'avion avec l'équipe de la France Bouge. Nous sommes ravis d'être avec vous, Nathalie Stoebler. Vous êtes la PDG de Transavia. Alors chaque jour dans la France Bouge, on mène revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit qui ont traversé les années, qui sont toujours là. En France, aujourd'hui, je vous propose de partir à Meaux dans le tout premier aéroclub de France. C'est l'Aéronautique Club de France. Il existe depuis 1897 et c'est la saga du jour.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Bonjour Quentin Payet.
Bonjour Elisabeth.
Un premier aéroclub en France, c'était il y a 125 ans, mais pourtant il n'y avait pas d'avion encore à cette époque.
Non, effectivement à l'époque il n'est pas question d'avion parce que les avions n'existent pas tout simplement. C'est très exactement le 20 octobre 1897 que l'Aéronautique Club de France voit le jour. Ce sont des copains de régiment qui créent l'association, ce sont des aérostiers, des militaires qui font de l'observation à partir de ballons à gaz. Et cette association leur permet de développer la formation et de créer une école, comme nous l'explique Philippe Lamy, président de l'Aéronautique Club de France.
À cette époque, 1897, il y a eu un tout petit saut de puce fait par Clément Ader, mais nous sommes encore loin de ce qu'on va appeler l'aviation en tant que telle. On parle plutôt d'aéronautique au sens large, et ce qui domine à l'époque, ce sont les ballons. Notamment, il existe bien sûr des montgolfières, mais elles ne sont pas très pratiques pour une utilisation militaire. Donc, à cette époque, on développe plutôt le ballon à gaz pour pouvoir faire de l'observation, mais également les dirigeables. Ce qui n'empêche pas quelques pionniers de continuer à explorer ce qu'on va appeler les plus lourds que l'air, c'est-à-dire contribuer au développement des avions, à travers notamment les expériences de planeurs.
Alors, quand est-ce que les avions arrivent à l'Aéronautique Club?
Alors, c'est pendant la Première Guerre mondiale que les avions se développent à une échelle industrielle. Les exploits des pilotes font rêver les gens, voler surtout, fait rêver. Après la guerre, il faut trouver une nouvelle utilité aux avions. C'est dans les années 1920-1930 que se développe l'aviation commerciale, l'aéropostale et l'aviation de loisirs. C'est à ce moment-là que l'Aéronautique Club de France acquiert ses premiers avions. Dans un contexte diplomatique très tendu, la Seconde Guerre mondiale n'est pas très loin.
Dans les années 30, il y a eu la volonté par le gouvernement du Front populaire de développer ce qu'on appelait l'aviation populaire. La France s'est aperçue que toute l'industrie aéronautique qu'elle avait pu produire pendant la Première Guerre mondiale ne suffisait plus et il y avait un manque de pilotes. Et donc, pour développer ce qu'ils ont appelé donc l'aviation populaire, la possibilité de doter les aéroclubs d'avions qui ont été donnés par l'État, ce qui a été notre cas à l'Aéronautique Club de France. Nous avons reçu un ou deux avions à l'époque. Il est évident que c'était à la fois pour développer une aviation populaire, mais en même temps permettre le développement de l'aviation avec des objectifs militaires à plus ou moins long terme.
L'Aéronautique Club est basé sur un aérodrome. Les membres peuvent donc voler, utiliser les avions du club ou leurs propres avions. Mais c'est aussi et surtout un organisme de formation au pilotage. L'Aéroclub accueille des élèves pilotes et, chose étonnante, on peut apprendre à piloter un avion dès 16-17 ans avant de savoir conduire une voiture.
J'insiste beaucoup, moi, quand on reçoit des futurs élèves pilotes, sur l'engagement que ça nécessite. Un engagement de temps. Apprendre à piloter, ce n'est pas comme apprendre à conduire une voiture. Pour certains, apprendre à piloter, c'est une sorte de rêve. Simplement, la formation est quand même assez rigoureuse. Certaines motivations peuvent s'éroder à ce moment-là. L'obtention quand même du brevet, ça nécessite, je dirais, un effort et une constante pendant environ un an et demi, pendant environ deux ans, selon le temps de disponibilité à la fois de l'élève et de l'instructeur et de l'avion.
Alors aujourd'hui, l'Aéronautique Club de France compte 32 élèves pilotes. Et si vous souhaitez, Elisabeth, apprendre à piloter, sachez que cela dure entre un an et demi et deux ans. Et cela vous coûtera environ 7000 euros.
Bah oui, pourquoi pas. Mais il faut passer. On est toujours avec Nathalie Stubler, la PDG de Transavia. Il faut passer par l'ENAC, de toute façon, pour piloter un avion en France, pour apprendre.
Alors, il y a plusieurs écoles de pilotage. L'ENAC en est une. Il y a d'autres filières. Air France aussi avait monté sa filière, cadet, des pilotes cadets. Donc. Où la formation est interne. Donc effectivement,
vous chez Transavia, vous récupérez les pilotes d'Air France.
Les pilotes sont déjà
ils sont formés
pilotes. Nous, notre plan de formation, c'est de les former, je dirais, à l'appareil que nous exploitons aujourd'hui, qui est le 737NG, ainsi que à l'ensemble de notre réseau.
Tous vos avions sont des 737.
Tous nos avions aujourd'hui sont du 737NG et nous basculerons donc progressivement sur de l'Airbus A320neo, et une fois que la bascule aura été faite sur plusieurs années, tous nos avions seront une flotte entièrement Airbus.
Entièrement Airbus. Alors justement, on parlait de formation, on entendait la formation avec l'Aéronautique Club de France. Augustin de Romanet, le président d'ADP, s'est inquiété de l'afflux massif de voyageurs pour cet été. Vous nous l'avez dit en début d'émission, 500 personnes sont en train d'être formées, là, des hôtesses, des stewards. Vous êtes en pleine en cours de recrutement. Est-ce que ça signifie qu'ils seront prêts pour cet été pour que vous puissiez répondre à cette demande?
C'est vrai. Effectivement, le plan de marche que nous avons, les pilotes sont déjà des pilotes, mais ils doivent être formés sur notre appareil, sur notre réseau. Les hôtesses et stewards ont aussi leur formation d'hôtesse et steward.
En interne chez Transavia.
Avec déjà leur diplôme, je dirais. Mmh. Et ils arrivent chez Transavia et on les forme aussi à notre réseau, à nos spécificités, bien sûr aux consignes de sécurité. La sécurité, c'est le premier sujet effectivement dans une compagnie aérienne. Et puis on les forme aussi commercialement sur Transavia, puisque c'est un atout formidable pour nous. Les hôtesses et les pilotes sont très appréciés des clients. Je dirais,
je crois que j'avais même reçu une bonne note, il me semble.
Oui, ils ont effectivement, on demande aux clients de donner effectivement leur appréciation du voyage, des différentes phases du voyage, avant le site de réservation par exemple, ou le traitement à l'aéroport. Mais ce qu'ils apprécient le plus, c'est vraiment la phase de vol, avec une très bonne note de nos PNC, dans notre jargon, personnel navigant commercial, hôtesse et steward, 8,9 sur une échelle de 10, c'était la note moyenne de l'an dernier.
Sur quels critères? C'est leur sympathie, leur dévouement,
leur façon de s'exprimer, la façon d'interagir, de communiquer aussi avec le client, c'est ce qu'on leur demande. Mm-hmm. Et les hôtesses et stewards sont très appréciés. Les pilotes aussi. On a aussi beaucoup de verbatim de la part de nos clients sur nos pilotes.
Donc des hôtesses agréables et des stewards agréables, des futurs avions qui vont faire attention à l'impact environnemental. Maintenant, si vous voulez bien, Nathalie Stubler, on va parler du prix, puisque le prix du transport aérien en France est en hausse depuis trois mois. Il y a eu la reprise du trafic, il y a la flambée des cours du pétrole, la hausse des taxes. C'est parti pour durer, si l'on en croit les spécialistes. Comment, chez Transavia, cela est-il impacté sur le prix des billets?
Alors effectivement, la structure de coûts évolue à la hausse. En particulier, vous l'avez mentionné, avec le coût du carburant, qui est un poste assez élevé et qui est en train effectivement de connaître des hausses spectaculaires. Nous avons fait le choix de ne pas toucher à nos tarifs d'appel, mais
nous incorporons des hausses de tarifs sur l'ensemble de nos tarifs pour...
Alors, attends, ça veut dire quoi ? Donc, vous n'avez pas touché sur les tarifs d'appel. Ça veut dire que si je tape, là, aujourd'hui, un Paris-Séville avec Transavia, je ne vais pas trouver qu'il y a une légère différence par rapport à il y a 3-4 mois. Mais alors, sur quoi vous augmentez ?
Le tarif d'appel, c'est celui que vous allez trouver très longtemps à l'avance. D'accord. Tarif d'appel, vous ne le trouvez plus lorsque vous vous rapprochez de la date.
Donc, mais ça, avec ou sans l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation, ça ne change rien.
In fine, il faut que notre structure tarifaire reflète la structure de coûts de l'entreprise. Donc, on est, je dirais, conduit à progressivement augmenter nos tarifs pour tenir compte de l'augmentation très forte du coût du carburant.
De combien ? L'augmentation de moyenne de combien vous allez augmenter le prix de vos billets chez Transavia ?
Je dirais que ça va dépendre un peu aussi de l'augmentation du coût du carburant. On était protégé un peu au début de l'année par une politique de couverture d'achat, c'est-à-dire que le groupe s'est acheté un peu du carburant à terme.
Elle avait des réserves.
Ce qu'on appelle des achats à terme, mais pas pour l'ensemble du carburant. Donc maintenant, je dirais, on est plus dans l'évolution un peu au quotidien. Et effectivement, l'idée, c'est quand même de traduire cette augmentation de coûts dans une
sur
augmentation
le prix du billet. Par exemple, chez Air France, donc vous êtes filiale du groupe Air France, c'est entre 40 et 100 euros.
Sur le long courrier.
Sur le long courrier.
Donc, les trajets moyens courriers, c'est effectivement des sommes un peu différentes. Mais voilà, ça va dépendre de la durée, effectivement, du vol aussi. Donc, l'idée, c'est indéniablement, l'ensemble des compagnies aériennes doivent faire face à une hausse de leurs coûts et doivent augmenter leurs tarifs.
Vous évoquiez les trajets, Nathalie Stoebler. Est-ce que ça dépend du coût ça dépend du trajet, évidemment, pour le coût du billet. Mais est-ce que vous prenez en compte dans le prix du billet tous les services qui sont à bord ? Est-ce que, en fonction du trajet, vous allez baisser ou augmenter le prix de telle boisson, de telle...
Non,
tout ce qui est service à bord, est-ce que c'est impacté aussi ?
Le tarif de ce qu'on appelle de la vente à bord, lui, va dépendre plutôt des prix des aliments, oui, je dirais, qui le composent.
Mais là aussi, ça
donc
augmente.
Ça, effectivement, c'est plutôt notre fournisseur qui...
Mais ça aussi, ça augmente. Donc,
les fournisseurs sont en train de nous dire que les prix, effectivement, alimentaires, on le voit aussi ailleurs que...
mais c'est partout. Il y en a la grande distribution, ça fait la une de tous les journaux depuis...
Voilà.
Donc
ça, c'est le thème de la campagne. C'est les fournisseurs qui, de la même façon, répercutent leur coût de produit vers le client. En l'occurrence, c'est nous le client. Donc, effectivement, c'est un sujet d'attention aussi, un sujet d'attention pour nous.
Vous pourriez changer vos fournisseurs, justement, pour qu'on puisse s'y retrouver ? Parce que si on choisit Transavia aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est une low cost. Est-ce que vous pourriez changer les fournisseurs ? Parce que là, l'augmentation du prix va être de l'ordre de combien ? Une dizaine d'euros ?
Oui, on est sur quelques euros, effectivement, compte tenu des distances moyennes que nous opérons. Après, ça va dépendre quand même de la durée d'augmentation du prix du carburant effectivement, de la durée de cette crise qui pèse sur ce cours. Après, nos tarifs resteront abordables. L'idée, c'est aussi une structure low cost. Mm. C'est aussi, justement, un seul type avion qui est utilisé de façon intense pour permettre la valorisation des actifs qui valent cher dans une entreprise aérienne, qui sont les avions. Donc, on va rester abordable, bien sûr, mais tout en ayant une attention particulière à notre structure de coûts qui augmente du fait du carburant.
Vous restez avec nous, Nathalie Stoebler, PDG de Transavia. Vous allez, tiens là, accompagner, coacher, poser des petites questions à une entrepreneure qui se lance, elle aussi, dans le tourisme. Vous êtes prête ?
Je suis prête.
On y va.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Et c'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle où ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante. C'est une experte aussi. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Stoebler. Vous êtes la PDG de Transavia. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie est à mes côtés. Et on va vous proposer un projet qui a été lancé il y a 3 mois, on peut le dire comme ça. Hein. C'était fin décembre 2021. Bonjour Réjeanne Narbonnet.
Bonjour Nathalie.
Vous avez 42 ans. Vous êtes la fondatrice de la French Latitude. C'est un site de réservation en ligne dédié aux belles adresses françaises. Je vous invite à aller y jeter un œil sur ce site. Il est vraiment très, très bien fait. Vous, Réjeanne, vous avez travaillé pendant 20 ans dans le tourisme de luxe. Vous avez passé 15 ans à l'étranger. Hein. Vous avez travaillé pour pas mal d'établissements. Et en rentrant en France, vous avez voulu vous lancer à votre compte. Vous avez fondé une première entreprise,
puis vous auprès des agences de voyage, puis vous avez lancé ce site, la French Latitude. Le reste, vous allez nous le raconter, vous allez essayer de nous convaincre. Vous avez une minute, c'est parti.
Alors la French Latitude, c'est parti d'un constat en fait. On a voulu monter la French Latitude parce qu'on s'est rendu compte que c'était toujours pareil au moment de vouloir partir en vacances ou en week-end surtout. On passe des heures sur Internet, on est un peu noyé dans la masse d'informations aujourd'hui. Et les grosses plateformes, pour ne pas les nommer, mais les plus grosses plateformes proposent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a aussi bien du 2 étoiles, du 3 étoiles, du 5 étoiles, des appartements, des maisons d'eau, tout est mélangé, mais il y a surtout une masse. Et puis ensuite, on est noyé dans les avis. On va rechercher un petit peu sur TripAdvisor les avis, mais les avis, est-ce qu'ils sont fiables? Parce que bon, un hôtel qui pourrait être très bien pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et j'ai voulu monter cette plateforme parce que donc c'était compliqué de trouver un endroit facilement et le réserver sur le même site. Pour partir en week-end, ça prenait des heures. Et deux, je voulais mettre en avant notre beau pays qui est le plus beau pays du monde.
Merci Jeanne Narbonnet donc, pour la French Latitude. Donc si on comprend bien, c'est une plateforme. Vous avez environ 90 hôtels qui sont référencés. Vous négociez le meilleur prix.
On négocie le meilleur.
C'est hyper
prix,
important de le dire. Donc, ça ne va pas être plus cher que chez les bookings et autres.
Non. Et en plus, vous avez un cadeau.
Vous avez un cadeau. Pourquoi la French Latitude? Pourquoi il y a la French Touch? C'est quoi l'idée? Il y a quoi derrière tout ça?
Parce qu'on a quand même, on est connu dans le monde entier pour avoir cette attitude française, ce je ne sais quoi français. Voilà, élégant. Nous sommes à la recherche d'adresses de caractère. On commence aux 3 étoiles, nous avons des adresses de 3 à 5 étoiles, mais également des maisons d'hôtes. Mais par contre, nous avons des critères de sélection aussi bien basés sur le service, hein, l'accueil, la décoration et le charme de l'adresse.
Je me tourne vers Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de la French Latitude selon vous ?
Bonjour Elisabeth, bonjour Réjeanne.
Alors
bonjour. Les points positifs, déjà les lieux que vous proposez sont très bien décrits sur votre site, ça donne vraiment envie. Vous proposez également des activités à faire autour du lieu, on a tout pour organiser son week-end. Le prix proposé est le même qu'en réservant en direct, ça change des plateformes bien connues. Puis en passant par votre site, on a le droit à un petit cadeau spécial et ça fait toujours plaisir. Alors pas de points améliorés mais quelques suggestions. Déjà 2 points de détail sur le moteur de recherche. On part de plus en plus souvent en fonction du temps de trajet et sans destination prédéfinie. Vous pourriez ajouter cela dans votre moteur de recherche. Voilà, je veux partir à 2 heures en train ou à tour de chez moi, par exemple. Puis vous proposez vos lieux par catégorie, avec les kids, des lieux éco-responsables, avec piscine, etc. Mais on peut vouloir partir avec ses enfants dans un lieu éco-responsable et qui a une piscine. Donc transformer peut-être ces éléments en filtres qui nous permettent d'affiner facilement notre choix. Ensuite, vous n'êtes pas évidemment le seul site à proposer des lieux qui valorisent de très belles adresses françaises, mais vous misez sur la sélectivité. Mmh. Peu de lieux, mais très bien choisis. Donc creusez le sillon de cette sélectivité, dévoilez tous vos critères de choix, ça rassure les internautes et ça annonce la couleur aux hôteliers. Voilà les conditions pour mériter d'être référencé chez nous. Ça serait en fait comme une espèce de charte avec des engagements à respecter qui se fondent sur les valeurs de votre entreprise. Par ailleurs, pour le moment, on a l'impression qu'il y a un style assez similaire d'un lieu à l'autre, une architecture moderne, très design. Vous pouvez peut-être aller vers d'autres styles qui plaisent aussi beaucoup aux Français, la tradition, les petites auberges rurales qui n'ont rien à envier aux belles adresses parisiennes, histoire d'avoir une plus grande variété de lieux, toujours autour de la sélection drastique. Enfin, comme on est aussi sur la notion du voyage no stress, peut-être que vous pourriez avoir des partenaires qui s'occupent de nos enfants si on veut partir en amoureux, qui organisent nos activités sur place, qui nous louent une voiture chic et qui nous l'amènent à la gare si on veut éviter de faire le trajet en voiture, etc. Parce que finalement, la French Latitude, c'est la promesse de se poser pour un séjour VIP dans des lieux magiques qui font la beauté de la France.
Merci Nathalie Carré, c'est toujours précieux tous vos conseils. Réjeanne, vous en pensez quoi de ce que vous dit Nathalie? Peut-être aller davantage vers une sélection encore plus affinée, plus drastique, hein, c'est le mot qu'elle utilise.
Oui, peut-être, et puis aussi élargir le style des propriétés. Alors bon, on en a, j'étais notamment la semaine dernière dans le Val-de-Loire, en Touraine, où j'ai sélectionné plusieurs adresses qui vont bientôt rentrer et qui sont beaucoup plus traditionnelle et charmante, et on en a aussi quelques-unes. Il n'y a pas que du moderne sur le site. en termes de... elle m'a donné de superbes idées.
Ah bah oui, vous pouvez les réécouter en podcast, voilà, c'est ça. Sans problème.
Et non, mais ça me fait plaisir que le site semble lui plaire. Et
elle parlait de tradition, peut-être aller vers des petites auberges rurales, et vous disiez, non mais on en fait. Hein.
Oui, on en a quelques-unes, oui, on en a quelques-unes, effectivement. Alors ensuite, il faut savoir que le site s'est lancé avec une toute petite équipe, et qu'aujourd'hui, on ajoute des adresses chaque semaine, mais doucement. Mais on espère en avoir un peu plus. D'ici la fin de l'année, on vise 150 hôtels, donc on pourra avoir plus d'adresses rurales à la campagne. Voilà, un peu partout en France et dans nos dom-toms aussi, qu'il ne faut pas oublier parce que je pense qu'ils sont très souvent oubliés également.
Qu'en pense notre patronne du jour, Nathalie Stobler, PDG de Transavia? Quel petit conseil ou quelle remarque pourriez-vous faire à Réjeanne pour la French Latitude?
J'ai déjà une question. Est-ce que ce site s'adresse plutôt à de la clientèle française qui connaît un peu les lieux ou plutôt de la clientèle étrangère, européenne par exemple, qui a envie de découvrir des choses un peu hors sentier?
Elle s'adresse aux deux. On a lancé le site dans un premier temps en français, mais j'ai pris un traducteur qui est aussi écrivain, parce qu'on a un concept très éditorial où on présente bien.
Voilà.
L'idée, c'est l'évasion dès le départ. On lit le site comme on lirait un magazine, et il s'adresse également aux étrangers. On a eu nos premières réservations ces dernières semaines d'étrangers.
Quelle nationalité?
Alors, américain, anglais, belge, et on a eu pas mal de réservations de Hollande, et j'ai eu une Argentine aussi.
Et vous gagnez votre vie comment?
Alors, nous sommes payés à la commission.
Par l'hôtel, donc?
Par l'hôtel.
Voilà. Pour vous aider, je crois que vous avez besoin de recruter, parce que c'est compliqué de tout gérer, c'est ce que vous avez dit à nos équipes. On a beaucoup d'envie, et vous avez besoin de sous.
C'est le moment. Pour recruter, il va falloir qu'on arrive à obtenir ce budget pour pouvoir payer des gens, pour faire plein de choses, parce qu'on a plein d'envie pour promouvoir ce site et notre beau pays.
La French Latitude. Merci Réjeanne Narbonnet d'être venue aujourd'hui dans les Trophées de l'Avenir. La France bouge, hein, et vous reviendrez nous en parler quand ça va se développer, quand vous allez avoir 1500, 2000, 3000 hôtels. Et vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les Trophées de l'Avenir.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. La France bouge, nous sommes toujours avec Nathalie Stobler, c'est notre grande patronne du jour. Vous êtes la PDG de Transavia. Dans La France bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, nous sommes avec François Santi. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Elisabeth.
Vous êtes l'un des dirigeants du groupe Cap Horn Anaxago. C'est un fonds d'investissement dans l'innovation. Une équipe de 60 personnes y travaille. Et votre métier, c'est d'investir dans des startups et des projets innovants, les projets qui feront la société, l'économie de demain. Si vous êtes dans la France bouge, c'est parce que vous avez organisé du télétravail en groupe. C'est bien ça?
Exactement.
Ça paraît curieux, c'est un peu contre-intuitif, hein?
Assez contre-intuitif, mais pour vous résumer un petit peu cette expérience, dans une ère post-Covid où on a un petit peu perdu le lien humain et le travailler ensemble, j'ai découvert cette plateforme WOM, qui est vraiment un outil technologique qui permet de simplifier et fluidifier l'accès au télétravail. Et donc, on a eu l'occasion, pendant 3 jours, de se retrouver en Normandie, dans un lieu propice au télétravail en équipe. L'objectif était avant tout d'y travailler, mais le fait de s'y retrouver dans un contexte un petit peu différent, en physique, avec des activités extra-professionnelles le soir et le midi, et des conditions propices.
Des randonnées et des visites de distillerie de Calvados. Donc ça aussi, ça met à l'aise, hein, ça détend.
Exactement. Tout à fait.
Non, mais c'est bien parce que vous nous avez dit à nos équipes que vous en ressortiez avec des discussions, une connaissance de l'autre plus importante, parce que vous prenez le temps d'échanger. Et vous avez même dit des séjours de télétravail, ça change tout. Ça change quoi?
Le plus important, je pense, de mon point de vue, il y a plusieurs aspects, mais c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, de mon point de vue, elle ne peut pas uniquement se faire sur Zoom ou sur les visioconférences ou sur un unique lieu fixe et mobile. On a besoin de connaître l'autre, et connaître l'autre, c'est le connaître dans un milieu professionnel, mais aussi dans des lieux différents qui permettent justement de mieux comprendre ses collaborateurs, d'échanger des moments de vie.
Et la productivité suit.
La productivité suit parce que les lieux que nous propose cette plateforme WOM sont justifiés et sont parfaitement adaptés au télétravail. Donc, Pour vous donner quelques exemples, on a un réseau Internet, un réseau mobile parfait. On a chacun un bureau, on a des espaces pour échanger. Mmh. Et donc,
mais
pour
vous donner un exemple. Mais l'espace est hyper agréable. Merci à vous, François Santi. Vous êtes l'un des dirigeants du groupe Cap Horn et Anaxago. C'est déjà la fin de votre émission. Nathalie Stoebler, le mot de la fin.
Le mot de la fin, moi j'ai envie aussi de donner un peu d'optimisme.
Vous êtes là pour ça.
Et de choses positives pour préparer donc vos séjours d'été. Je pense que c'est aussi important de se dire on offre de belles destinations. Mmh. Je n'ai pas cité toutes les destinations Transavia.
Oui, vous avez dit la Grèce, l'Espagne.
Alors si on est un peu plus précis, on va parler par exemple des Cyclades ou des îles Ioniennes, parce qu'on a aussi ouvert Céphalonie, ou encore les Canaries qui marchent très très bien, les Baléares. On peut aussi s'intéresser aussi à la Terre, Tanger et Saouira. Voilà, j'espère vous avoir fait rêver.
Vous nous avez fait rêver
quelques évocations.
Et ça fonctionne bien. Une bonne reprise donc pour le secteur aérien, même si c'est compliqué, qu'il manque des bras, il manque de la main d'œuvre, hein, comme dans tous les domaines. On se retrouve demain pour une autre France Bouge. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat. À demain.
Elisabeth Assayag sur Europe 1.